ce week-end.
Le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, on avait tant aimé son sens de la narration et des couleurs dans son premier album, aux accents démoniaques dédiés à Liszt. Le pianiste Nathanaël Gouin nous émerveille une nouvelle fois au disque, mais dans un registre plus apaisé, dans un programme baigné de poésie et de lyrisme, mettant à l'honneur l'œuvre pianistique de Bizet. Nathanaël Gouin sera justement notre invité ce soir. Le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale et tout d'abord quelques nouvelles développées par Philippe Gault sur le site de Radio Classique. L'Opéra de Paris lance une mission sur la question raciale, une initiative qui fait écho à un manifeste intitulé « De la question raciale à l'Opéra National de Paris », manifeste signé par près de 400 salariés de la maison, sensibilisés par le mouvement Black Lives Matter, un manifeste appelant notamment à abolir les blackface dans les ballets et les opéras. Le Royal Opera House de Londres vend un tableau de David Hockney pour affronter la crise. Il s'agit du portrait de Sir David Webster, un ancien directeur de la maison. Sa vente, la vente de ce tableau, prévue le 22 octobre chez Christie's, devrait générer entre 11 et 18 millions de livres qui permettront de s'assurer que les meilleurs artistes du monde puissent de nouveau revenir sur nos planches, a précisé Alex Bread, le directeur du Royal Opera House. Après les mauvaises nouvelles, à savoir l'annulation du Bourgeois Gentilhomme, l'Opéra Comique se projette vers l'avenir et vient ainsi de nous dévoiler sa saison 2021. Nous avons décidé de réagir sans rien brader, s'adapter sans rien renier, ou presque, a affirmé son directeur Olivier Mantei. C'est ainsi que 7 productions lyriques sont programmées, un Titon et l'Aurore de Mondonville par William Christie et César Florissant, 2 opéras d'Offenbach, dont une belle Hélène mise en scène par Michel Faux, qui jouera au passage le rôle de Ménélas, mais aussi l'Orfeo de Monteverdi, dirigé par Jordi Savall, une création de Philippe Hersant sur un texte de Jean Echenoz, ou encore un Roméo et Juliette de Gounod, mise en scène par Éric Ruff, avec notamment Julie Fuchs, Jean-François Borras et Adèle Charvet dans des costumes de Christian Lacroix. Radio Classique dédiera toute une journée spéciale le 26 octobre, à cette nouvelle programmation de l'Opéra Comique. Alexandre Bloch retrouve cette semaine ses musiciens de l'Orchestre National de Lille autour d'un programme intitulé Métamorphose, programme qui mettra notamment en avant les cordes de l'orchestre. Ces cordes qui interpréteront les bouleversantes Métamorphoses pour 23 instruments solistes de Richard Strauss. Le violoncelliste Misha Maïski se joindra également aux musiciens de l'orchestre pour interpréter le Kol Nidrai de Bruch ainsi que les variations rococo de Tchaïkovski. 2 concerts, mercredi et jeudi, à l'Auditorium du Nouveau Siècle de Lille, mais aussi vendredi à la Philharmonie de Paris.
Le journal du classique sur Radio Classique.
Autre violoncelliste à l'affiche ces jours-ci, mais à l'Opéra de Bordeaux, Jean-Guyenne Queyras. Il sera le soliste des prochains concerts de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, dirigé par Bernard Labadie, jeudi soir à Bordeaux, mais aussi vendredi à Souston. Et il devrait ensorceler une fois encore le public dans le premier concerto de Haydn, dont on écoute ici quelques notes de l'ébouriffant final. Thank you. le final du premier concerto pour violoncelle de Joseph Haydn dans l'enregistrement de Jean-Guyenne Queyras avec l'Orchestre baroque de Fribourg. Jean-Guyenne Queyras qui jouera ce concerto avec l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine et Bernard Labadie jeudi à Bordeaux et vendredi à Souston.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est donc avec Nathanaël Gouin que nous allons passer un petit moment à présent évoquer la musique pour piano de Bizet qu'il célèbre dans son tout nouvel album sorti chez Mirare. Un répertoire peu connu dans la mesure où le nom de Bizet reste attaché à l'opéra ou à la musique symphonique, mais un répertoire à travers lequel le compositeur exprime justement sa fibre lyrique. C'est une musique pour piano qui chante, ce qui a profondément séduit Nathanaël Gouin, comme il nous le raconte ce soir.
Je connais Bizet à travers ses mélodies si célèbres, ses airs d'opéra, cet art de, avec de si peu de notes d'arriver à tresser des mélodies qui vraiment rentrent pas que dans l'esprit, dans le cœur aussi, qui ont fait évidemment de Carmen et Pêcheur de Perles des chefs-d'œuvre qu'on connaît si bien, mais il y a beaucoup d'autres œuvres et c'est ce que j'ai senti avec les chants du Rhin quand je les ai abordés et j'ai découvert cet art du piano en plus où il faisait avec des accompagnements très modestes vibrer des mélodies par dessus avec un art incroyable, un art de la vocalité qui est peut-être la chose la plus difficile à faire au piano. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, oui.
Mais chanter au piano, sans que vous aimez cela, vous êtes fils de chanteur d'ailleurs, Nathanaël Gouin, on a l'impression que c'est naturel pour vous cette vocalité.
Alors, je suis né dans l'opéra à travers mon père, j'ai fait du violon pendant 10 ans, donc cette problématique de soutenir le son, de tresser des connexions entre les notes, je crois que ça a forcément laissé des marques dans mon parcours. Au piano, j'essaye de retrouver ça, de cultiver ces connexions entre les notes, ce legato dans le cantabile qui est si difficile à trouver. Ça reste tout de même une machine avec des marteaux qu'il faut arriver à faire en sorte que ces notes parlent entre elles, qu'on ait des impressions de voyelles, de consonnes. Et même si ce disque se dit sans parole, c'était la problématique numéro un à laquelle j'ai dû faire face, oui.
Thank you.
Debussy a très peu écrit pour le piano, mais il nous a laissé quelques merveilleuses pages, comme ces Chants du Rhin, que vous avez tout naturellement inscrit au programme de cet album, Nathanaël Gouin. Bizet était lui-même un virtuose du piano, on le sait peu. Il était admiré, entre autres, par Liszt. Mais il a préféré renoncer à cette carrière de concertiste. Et il disait qu'il détestait être un exécutant, mais qu'il voulait être un créateur.
Et je rajouterais que il était passionné vraiment par l'opéra total, cette envie de raconter une histoire pendant des heures et de faire vivre un personnage à travers une mélodie, un thème. Et c'est vraiment ce qu'il visait. Il a réussi, évidemment, on n'a pas besoin de le rappeler, mais il avait tout de suite cette idée-là en tête. Il refusait la carrière de pianiste en disant que c'était une carrière de singe de foire. Alors, on en pensera ce qu'on voudra, mais ça l'a pas empêché d'avoir une maîtrise de l'instrument inouïe que je crois on peut entendre dans sa transcription du deuxième concerto de Saint-Saëns. Donc, il savait faire ces choses-là, mais il s'en est caché. C'est-à-dire qu'il voulait pas vivre de cela. Ça aurait été une forme de facilité.
Mais il aurait pu écrire davantage pour son instrument. Il a écrit des transcriptions, mais très peu de pièces originales. Il y a ses Chants du Rhin et les Variations chromatiques, très peu d'autres cycles.
Alors, je crois que le temps lui a manqué.
Peu de temps.
Alors, quiconque, je fais pas partie de cette catégorie, mais quiconque a écrit un opéra peut savoir de combien de temps on a besoin pour parvenir à quelque chose comme cela. Donc, il en a quand même écrit quasiment une vingtaine depuis ses débuts. Il a été content des Variations chromatiques. Il dit lui-même que c'était une œuvre réussie, mais je pense qu'il était très dur avec lui-même et que ce rigorisme et puis ce perfectionnisme s'est ressenti dans ses opéras avec l'achèvement ultime de Carmen où il n'y a pas une note à changer, une page à déformer. Donc, c'est un homme très attachant qui était très difficile avec lui-même et qui avait un objectif très tôt et qu'il a accompli. Voilà.
Mais dans ses pages originales pour piano, comme ses Chants du Rhin, il développe ce génie de la mélodie, ce sens du dramatisme aussi, puisqu'il y a une substance littéraire dans ses pages qui sont inspirées de poèmes, même si on est plus dans l'ordre de la suggestion que de la pure narration.
Oui, il y a beaucoup de choses qui se télescopent. L'univers germanique, à travers évidemment le Chant du Rhin. Le Rhin a quelque chose, c'est pas pour rien que Schumann s'y jette, il y a quelque chose de ce fleuve qui semble habiter beaucoup de rêves, de songes, mais pas forcément ce qu'il y a de plus positif. C'est qu'il y a quelque chose d'assez lourd, très romantique. Et donc ça, je crois que ça l'a beaucoup inspiré, que ça inspire beaucoup de compositeurs à cette époque-là. Et évidemment, il y a les romans sans parole de Mendelssohn. Je crois qu'on peut citer les Chants de l'Aube aussi de Schumann. Même si c'est très épuré dans son écriture, ça reste français, ça reste une manière d'écrire très française où l'économie de moyens s'entend. Et malgré tout, ça reste un défi pour le pianiste pour trouver cette texture dépareillée. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné d'avoir à la fois ce monde de l'opéra, à la fois de germanique et en même temps très français. Il y a une rencontre des styles qui fait... c'est des œuvres qu'on joue peu, mais je trouve que c'est fort dommage. Il y aurait une quantité de façons de jouer ces œuvres différemment, donc c'est absolument passionnant.
Vous avez choisi dans cet album dédié à Bizet, Nathanaël Gouin, de jouer une transcription que vous avez réalisée vous-même, très belle transcription de l'un des plus beaux airs de Bizet, la romance de Nadir, tirée des Pêcheurs de Perles, que Bizet lui-même d'ailleurs n'avait pas transcrit, lui qui a transcrit tant d'œuvres, il n'a pas pensé à transcrire cet air-là qui est si beau, si envoûtant.
Alors, si je me suis permis ça, c'est avant tout parce que j'ai découvert que cette mélodie qui m'habite depuis que je suis tout jeune, à chaque fois que j'ai les larmes qui me montent aux yeux quand j'entends cet air, sans trop savoir pourquoi, mon père le chantait, mais je l'ai entendu des milliards de fois, et à chaque fois c'est le même effet, simplicité, de se sentir complètement inondé de cette mélancolie si douce. Et donc, en fait, Bizet s'est transcrit lui-même puisqu'il a écrit une romance sans parole qui s'appelle Venise, d'où le clip que je me suis permis de faire aussi.
Oui, un très beau clip filmé à Venise.
Et on a voulu mêler le monde des Pêcheurs de Perles avec Venise, puisque la première version de cette mélodie, pour piano, s'appelait Venise, et il a écrit ça à 19 ans. Et donc, quand il écrit Les Pêcheurs de Perles bien plus tard, il recycle d'une certaine manière ce thème-là. Il l'orchestre, il le donne juste la mélodie au ténor. Bah, un petit peu dans l'esprit de Liszt, je me suis rendu compte que les thèmes de Carmen fourmillent de transcriptions diverses dans toutes les époques. On les a énormément transcrits pour plein d'instruments divers. Mais cet air des Pêcheurs de Perles, jamais. Donc, je me suis dit que si lui-même l'avait écrit au piano dans sa première mouture, que je pouvais peut-être me permettre d'en faire quelque chose.
Mais c'est une très belle idée. On se réjouit d'entendre cette transcription de cette romance de Nadir au sein de cet album qui met aussi en avant les variations chromatiques, une œuvre assez audacieuse de Bizet que Glenn Gould adorait, mais qui, curieusement, est complètement tombée dans l'oubli, qu'on ne joue quasiment jamais. Comme quoi, il y a des phénomènes de mode, finalement, Nathanaël Gouin.
C'est ça. Et il est assez étonnant, comme ça, que ce soit et les musiciens et le public qui mettent des œuvres vraiment en valeur, et puis après on passe à d'autres. Et en tout cas, les variations chromatiques sont très audacieuses. Il y a quelque chose de doucement sombre, comme cela, où on avance d'abord à travers le mineur, et puis la lumière arrive avec ce majeur avant de revenir au thème initial. Il y a une forme, et je crois que c'est pas pour rien que Bizet disait en être très heureux, et que Glenn Gould l'a enregistré deux fois dans deux versions différentes, ce qui n'est pas rien.
Alors, la musique de Bizet, vous la jouerez en concert prochainement, Nathanaël Gouin. Le concert de sortie du disque, ce sera le 21 octobre à Paris, à La Scala. D'ici là, on pourra vous entendre toujours à La Scala, samedi 10 octobre, dans un programme de musique d'aujourd'hui, avec l'ensemble de The 2M. Également, Noémie Schindler au violon et Raphaël Sévère à la clarinette. Vous participerez également au festival Ton Voisin d'Albi, où vous jouerez notamment quelques transcriptions beethoveniennes aux côtés de différents musiciens, parmi lesquels Mathilde Calderini, Alexandre Pascal, Damien Ventula ou encore Julien Boutin. Et puis d'autres concerts à venir, ce sera au mois de novembre. Vous serez au Musée d'Orsay le 17 novembre à Paris. Vous irez également en Allemagne. On vous retrouvera un petit peu plus tard dans l'année à Nancy. Certains concerts ont été annulés, notamment à l'étranger, mais aussi en France. Comment jonglez-vous aujourd'hui avec ces agendas complètement bousculés, Nathanaël Gouin ?
C'est une période très étrange pour tout le monde, donc on essaye tous de continuer notre chemin et de partager la musique du plus possible. C'est de toute époque comme cela, donc continuons.
Mais est-ce que ce confinement, cet arrêt brutal et assez long de la vie musicale, vous a permis quelque part de faire un travail comme beaucoup l'ont fait, pas seulement les artistes, sur vous-même, d'introspection, de remise en question? Est-ce que vous avez choisi de mettre en avant, je ne sais pas, la composition, puisque vous composez également?
Oui, exactement. Alors, il y a eu d'abord une première période où j'ai un petit peu pas rejeté l'instrument, mais en plus le confinement est tombé à un moment où j'aurais dû jouer à la salle Gaveau les années de pèlerinage, donc j'étais vraiment dans le travail intense de cette préparation là et donc la première réaction était un peu cela. Après, je me suis vraiment plongé plus tard dans cette recherche de l'écriture, parce que c'est quelque chose que je fais passer le reste de l'année et que ça me passionne énormément, parce que j'ai le sentiment que que cette langue-là qu'on parle, en tout cas que j'essaye de parler au piano, il faut être capable pour la lire, pour la dire de la meilleure des façons, être aussi capable de l'écrire, pour comprendre ce que ces hommes ont voulu écrire, ces hommes, ces femmes d'ailleurs.
Donc, oui, parce que vous jouez aussi la musique de Nadia Boulanger
oui,
au sein d'un album
qui va apparaître
au mois de novembre avec la violoncelliste Astrid Cyranocian. J'espère qu'elle viendra nous en dire quelques mots à l'antenne.
Alors, elle a très peu écrit, Nadia Boulanger, mais elle a écrit des choses magnifiques. Elle a beaucoup aidé à, je dirais, accoucher des compositeurs et des jeunes compositeurs qui sont devenus des Piazzolla, des Carter, des Stravinsky. Donc toutes ces problématiques m'intéressent beaucoup et je crois qu'on doit faire l'expérience, même si ça doit être de manière très pudique à la maison, mais je trouvais que c'était une nécessité et le confinement a amené à ça.
Voilà, et puis il y a la sortie de ce magnifique album consacré à la musique de Bizet. On va se quitter, Nathanaël Gouin, avec l'étourdissant final du deuxième concerto de Saint-Saëns, qui est déjà, j'imagine, étourdissant à jouer lorsqu'on est juste, entre guillemets, au piano. Mais là, dont vous jouez en même temps la partie orchestrale dans cette transcription de Bizet, c'est un défi complètement fou de jouer cette œuvre.
Oui. Je crois que d'un point de vue purement instrumental, c'est une des œuvres les plus difficiles à exécuter que j'ai pu travailler jusqu'ici. Mais ça donne une idée, je crois, ce final des moyens qu'avait Bizet. Et je subodore que ça ne devait pas lui poser beaucoup de problèmes à lui.
En tout cas, vous donnez l'impression d'avoir aussi de beaux moyens, Nathanaël Gouin.
J'étais épuisé à la fin, je ne vous cache pas.
Merci infiniment d'être passé nous voir.
Merci à vous.
le final du deuxième concerto pour piano de Saint-Saëns dans sa version pour piano seul, signé Bizet. Un nouvel extrait de ce merveilleux album dédié à la musique pour piano de Bizet que vient de nous offrir Nathanaël Gouin chez Mirare. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorigny qui était en régie ce soir. Demain, nous serons en compagnie de Sébastien Dosset, le chef de l'ensemble Correspondance, qui viendra nous parler de ce merveilleux ballet royal de la nuit qu'il redonne cette semaine au Théâtre des Champs-Élysées. Mais tout de suite, je vous laisse en compagnie de Francis Drezel. Excellente soirée.